Dans la série des entretiens, la radiodiffusion française présente En bourlinguant avec Blaise Cendrars.
Partir, disait-il Blaise Cendrars, 1887-1961.
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout.
La prose du Transsibérien et la voix incomparable de Blaise Cendrars qu'on a beaucoup entendu à la radio dans les années 1950. Transsibérien, Moravagine, Rome, Bourlingué. Le concierge de Cendrars, quand il répondait à sa place au journaliste, résumait d'un mot, savez-vous, c'est un homme du monde. Lui-même, entendant la question insistante de Pierre Lazareff au milieu des années 1930. Mais le Transsibérien, vous l'avez pris, opposait à la question un argument imparable, mais je vous l'ai fait prendre, non? Se demander sans cesse si Cendrars est vraiment allé où il nous emmène, c'est une interrogation un peu vaine. Il faut passer de l'autre côté de l'écran mirobolant qu'il s'est fabriqué et entrer dans l'atelier du poète et du romancier. On voit alors que son écriture, elle aussi, n'est faite que de départ. Il aimait le mot « partance ». Dès qu'il est parvenu à une réussite, comme lorsqu'il est parvenu à un port, il ne s'y abandonne surtout pas, il recommence. Rien ne lui fait autant peur que les formules toutes prêtes. Blaise Cendrars, celui par qui l'inconnu advient.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Ce n'est pas Claude Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous qui démentirez cette forte maxime. Alors pour vous présenter, Claude Leroy, vous êtes un homme atteint de plusieurs monomanies.
Il faut avoir des monomanies, effectivement. Ce sont des passions, les monomanies.
Et alors, Cendrars depuis 50 ans, quasiment.
Si je regarde les dates, ça n'est pas faux. C'est une longue monomanie.
15 volumes sous votre égide d'œuvres complètes chez De Noël. 4 volumes à la Pléiade, maintenant, avec 2 nouveaux. Et puis, Partir, Quarto, Gallimard. Vous êtes aussi en même temps un fouilleur d'archives. Un de vos livres sur Cendrars s'intitule « Dans l'atelier de Cendrars ». C'est aux éditions Honoré Champion. On peut le connaître, cet atelier, grâce à des archives?
Bien, d'abord, il a fallu les découvrir, ces archives. N'est-ce pas? On a cru pendant longtemps, ça c'était un effet de sa légende, que c'est un improvisateur, qu'il écrivait à bâton rompu et puis on a découvert après sa mort justement que c'était un archiviste, qu'il gardait les états successifs de ses manuscrits, et ça a ouvert évidemment la voie à une toute autre connaissance de Cendrars. C'est un fou d'écriture.
On va utiliser beaucoup de ces archives radiophoniques, parce que grâce à Paul Gilson notamment, qui dirigeait la radio, à partir de 1950, il a participé à nombre d'émissions.
Oui. Il aimait beaucoup la radio. Il a participé à des émissions extrêmement différentes les unes des autres, des entretiens, mais aussi des pièces. Il a écrit des pièces pour la radio. Il a travaillé avec Raymond, sa femme. C'était une véritable passion chez lui.
On fera appel souvent aux entretiens qu'il a eus en 1950 avec Michel Manol, à l'issue desquels il dit « Oh, merci, vous êtes bien gentil ». Enfin, il était mieux que gentil, Michel Manol, non?
Il était surtout complaisant. Je ne sais pas jusqu'à quel point il était naïf, ou il jouait la naïveté, mais c'est vrai qu'il gobait en quelque sorte les paradoxes de Cendrars avec beaucoup d'aisance.
Et vous voulez dire qu'il s'est laissé balader quand Cendrars lui a raconté beaucoup de choses de sa jeunesse? Il est né en Suisse, Cendrars.
Il est né en Suisse, absolument. On l'a pas.
Il disait qu'il était né à Paris.
Il est né aussi à Paris.
Ah bon. Et son père était à l'entendre une sorte d'aventurier qui, par exemple, avait inventé la formule du palace à Héliopolis.
Oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Mais Héliopolis, c'est surtout la ville du Phénix. Et en fait, c'est sa naissance comme phénix, ou sa préhistoire comme phénix qu'il raconte.
Ah bah, c'est pas facile d'interroger Sandrard, parce qu'il prend toujours à contre-pied, l'intervieweur.
Oui. Les Norvégiennes sont blondes. Non, pas du tout. Elles sont brunes, etc. Oui, bien sûr. Oui.
Et alors, à propos d'un moment que Sandrard dit daté de 1902, qui est peut-être plutôt de 1904, le moment de la rupture, enfin, de l'éloignement, le mot serait plus juste, d'avec ses parents qui sont en Suisse.
Revenons à votre biographie et à cette rupture définitive avec la vie bourgeoise que vous deviez accomplir à Neuchâtel, en Suisse, une nuit de votre 16e année en 1902. Ce dessin de fuite, l'aviez-vous mûrement préparé?
Quelle chose?
Votre fuite, votre...
Jamais de la vie. J'ai rien préparé du tout. Je suis parti un beau matin parce que j'en avais assez.
Ben, vous ne pouviez pas supporter les entraves qu'apportait votre père à votre appétit de liberté.
Jamais de la vie, pauvre papa. Je partais parce que j'avais envie de m'en aller. J'en avais marre.
Vous partiez sans but défini et sans espoir de retour.
Je suis parti dans... vers l'Est, parce que le premier train à passer m'amenait vers l'Est. Mais si ça avait été un train qui m'eût mené vers l'Ouest, j'aurais débarqué à Lisbonne, j'aurais fait l'Amérique au lieu de faire la Chine, ce que je sais, moi.
Mon pauvre papa, il l'aimait, son pauvre papa et sa maman. Quand tu aimes, il faut partir. Vous appelez ça l'acte libérateur.
Oui, c'est son vers le plus fameux et c'est presque une sorte de devise à laquelle il est resté fidèle toute sa vie. Sa plus grande fidélité, ça a été à obéir en somme à ce qu'il appelle lui-même le démon du voyage, qui est un démon du départ, effectivement. Oui, c'est quelqu'un qui n'aime pas les choses qui continuent. C'est un mot clé chez lui, il aime prendre congé.
Il n'aura jamais été propriétaire d'une maison ?
Il n'a jamais été propriétaire d'une maison. Il a vécu à l'hôtel beaucoup, notamment avenue Montaigne. Puis, il a, au Tremblay-sur-Maudre, il avait, dans la région parisienne, il avait sa petite maison des champs, mais c'était une maison qui lui avait été prêtée par Raymond, sa compagne. C'était pas lui. Et rue Jean Dolan, à la fin de sa vie, il était locataire.
Et il dit, quand les portes sont ouvertes, faut pas entrer. Ça intéresse plus l'acte libérateur quand il est posé face à un obstacle. Et là, on va jusqu'au bout sans se plaindre.
Oui, c'est un esprit, effectivement, frondeur, d'une façon générale. Alors, on peut parler d'un certain goût pour l'anarchisme, mais d'une façon générale.
Alors, le départ vers l'Est ne s'est pas produit exactement dans les conditions qu'il dit à ce malheureux Michel Manol. Il y a eu deux départs, d'ailleurs, pour la Russie. À l'issue du deuxième séjour en Russie, il part dans un port letton, et ça va l'amener vers les États-Unis. Alors, plus tard, avec Raymond, sa compagne, toujours pour la radio, 1950-1951, il a produit une émission sur Noël avec des contes à naviguer debout.
Cela se passait en 1911, à bord du Volturno, un cargo qui venait d'embarquer à Libava pour les transporter à New York, une pleine cargaison des plus pauvres émigrants du monde, parmi lesquels je me trouvais en qualité d'interprète. Le Volturno était un tout petit cargo, rien du transatlantique, mais un bon petit sabot qui tenait bien la mer. On y crevait quand même de froid et aussi un peu de faim. Il était archi bourré de pauvres, des pauvres de tous les coins des pays d'Asie, et des Sibériens, des Tartares, et des Géorgiens, des Persans, et des Arméniens et des Kirghizes, et des Mahométans de la région des pétroles et des bouddhistes nomades de la région des steppes, plus quelques rares Chinois du Nord, des géants, et puis des Juifs, une quantité de pauvres Juifs qui venaient de tous les ghettos de la Pologne et qui, eux, chantaient par groupe pour tromper leur inquiétude et dire leur attente du nouveau monde, la terre promise. Le voyage a été long, 28 jours. C'est que nous nous sommes trouvés pris aux approches de la Noël dans une tempête épouvantable autour de laquelle le Volturno a perdu son hélice. Et nous voici à la dérive, à la merci des courants,
au large de Terre-Neuve, un tout petit vapeur surchargé d'hommes.
Alors voilà comment il aime se présenter, vous riez dans votre barbe, Claude Leroy, en entendant ce conte de Noël. Il veut se présenter en interprète de l'univers entier qui se trouve rassemblé sur un pont où il se trouve qu'il est.
Oui, il est là, il est surtout l'interprète de sa propre vie, n'est-ce pas ? Il l'a réécrit. Il la recompose de plusieurs façons. D'abord en se faisant l'interprète et non pas un des pauvres émigrants parmi dans la foule. Et puis, curieusement, en prenant pour bateau de départ celui qu'il prendra pour revenir. Il est parti sur le Birma, il est revenu sur le Voltourneau. Alors pourquoi part-il sur le Voltourneau ? Le nom peut-être du bateau.
Oui, parce que la musique des mots, c'est très important. Oui. Le lexique des métiers, le lexique de la mer, par exemple.
Oui, c'est un... le présenter comme un fou d'écriture, mais c'est un fou de dictionnaire. Il a passé sa vie, effectivement, en errant des bibliothèques, comme l'appelait Apollinaire, de bibliothèque en bibliothèque. Et c'est des listes de mots qu'il aimait recueillir, réutiliser. Il y a chez lui de magnifiques inventaires, des dénombrements, des énumérations, des mots improbables, des mots introuvables, des néologismes qu'il ajoute au milieu des autres, etc. Il a un amour du langage, et un amour, je dirais, sensuel du langage. Il aime les mots, il aime les dire, il aime les manger, il aime effectivement les faire goûter à ses lecteurs.
Là, on était en 1911, c'est à peu près tout ce qui est sûr dans le récit qu'il faisait. 1912, vous dites, c'est un premier moment décisif. Oh, New York, voilà à New York maintenant. C'est crevant la faim dans tes rues que j'ai écrit mon premier poème. Les Pâques à New York. Alors, il assiste à un concert spirituel dans une église presbytérienne chic. C'est peut-être du côté de la 43e rue. Lui, il est plutôt à l'autre bout, 96e rue. C'est un concert autour de la création de Haydn et un chœur de jeunes filles du monde qui chantent divinement, interprètent la musique, mais des prêtres harceleurs sont là qui veulent faire passer un message publicitaire à chaque séquence du concert et ils s'enfuient.
Il ne me restait plus qu'à rentrer chez moi, qui était à l'autre bout de New York, 96e rue, à pied, c'est une bonne trotte. Et rentrer chez moi, je me suis mis à grignoter un vieux quille de pain sec, boire de l'eau du robinet, et je me suis mis à écrire les Pâques à New York.
Vous êtes endormi d'abord, puis réveillé.
Je suis endormi, je me suis réveillé, je me suis re-endormi, je me suis re-réveillé, et le matin, j'avais fini.
Seigneur, je suis dans le quartier des bons voleurs, des vagabonds, des va-nu-pieds, des receleurs. Je pense aux deux larrons qui étaient avec vous à la potence. Je sais que vous daignez sourire à leur malchance. Seigneur, l'un voudrait une corde avec un nœud au bout. Mais ce n'est pas gratis, la corde, ça coûte 20 sous. Il raisonnait comme un philosophe, ce vieux bandit. Je lui ai donné un peu d'opium pour qu'il aille plus vite en paradis. Je pense aussi aux musiciens des rues, aux violonistes aveugles, aux manchots qui tournent l'orgue de Barbarie, à la chanteuse au chapeau de paille avec des roses de papier. Je sais que ce sont eux qui chantent durant l'éternité. Seigneur, faites-leur l'aumône autre que de la lueur des becs de gaz. Seigneur, faites-leur l'aumône de gros sous ici-bas.
Pourquoi est-ce si important, Pâques, à New York ? C'est à partir de ce moment-là que se constitue sa possibilité d'être un poète ?
Alors, tel qu'il présente les choses, c'est une convergence absolument admirable de signes. Son premier poème, qui est un grand poème, n'est-ce pas, qui marquera notamment Apollinaire. Et pour l'occasion, il change de nom. Il dépouille son identité reçue, il s'appelait Frédéric-Louis Sauzère, et désormais ce sera Blaise Cendrars. Alors, et ça le jour de Pâques, c'est beaucoup de choses, n'est-ce pas ?
Mais c'est plein de mauvais larrons, ce poème.
C'est plein de mauvais larrons, oui. C'est plein de mauvais larrons, et le poète, au fond, il est lui-même un mauvais larron, ce qui le sauve peut-être au-delà du poème. Mais c'est précisément d'être un poète. à ce moment-là, 1912, il est entre deux mondes. Il est tenté par une vie, effectivement, de vagabondage et de mauvais coups, et par, justement, cette passion qui prend la forme de ce poème-là, qui l'a sauvé, d'une certaine façon.
On est entre deux mondes. Suisse. Il appartient à une Suisse qui n'est ni romande ni alémanique. Là, je reviens en arrière. Il a une grande connaissance de la poésie allemande. Il va s'engager pendant la guerre de 14, avant même d'être naturalisé français, d'ailleurs, si je comprends bien.
Ah oui, 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 il demandera sa naturalisation après la blessure.
Et donc, il faut passer par la Légion étrangère dans ce cas-là?
On ne pouvait, quand on n'était pas français, que s'engager volontaire, effectivement. Et lui, donc, a décidé, vivant à Paris, ne se considérant plus suisse, effectivement, il a considéré qu'il fallait s'engager dans l'armée française.
Et qu'est-ce qu'il pensait des Boches à l'époque? J'emploie le mot parce que c'est le sien.
Oui, c'est celui de l'époque et c'est le sien, effectivement. C'est une chose très étrange, si vous voulez, que cette haine qui s'est développée à ce moment-là contre l'Allemagne et contre les Boches. C'est un Suisse bilingue et tout ce qu'on sait, grâce aux archives, justement, c'est qu'il avait une passion pour la poésie allemande. Il lisait Novalis, il lisait Rilke. On a découvert un trois pages sur Rilke qui sont tout à fait bouleversantes d'identification, effectivement, mais à un point qui touche au désir de vivre les mêmes expériences que lui et de mourir, effectivement, par cette lecture, dans cette lecture.
1915, blessé, la main droite amputée, la main coupée, c'est le titre d'un de ses textes les plus connus. C'est un moment pivot, ça aussi.
Ah, c'est peut-être, comment le dire, c'est le grand événement, le grand tournant de sa vie. On comprend facilement que l'amputation soit un événement marquant dans la vie de n'importe qui, bien sûr. Chez lui, d'une certaine façon, c'est un aboutissement. Dans de nombreux textes écrits de la main droite, on les identifie facilement parce qu'effectivement la graphie n'est pas la même. Il y a effectivement des descriptions de blessures. Il y a quelque chose qu'on peut entendre comme une attente, un appel à la blessure. Et cette blessure sur le champ de bataille est venue répondre à quelque chose de très profond chez lui. Donc c'est un aboutissement. En même temps, cet aboutissement, évidemment, l'a d'abord foudroyé, comme il le dit. Et il a fallu deux ans de grandes crises personnelles, de tourments, de tentations de suicide, pour qu'il découvre effectivement que cette blessure était peut-être sa chance de renaître, comme il en a toujours eu le désir, n'est-ce pas, le fantasme de renaissance, je suis l'autre, est une formule qui l'accompagne. Eh bien, voici qu'il, effectivement, peut se réaliser par cette découverte, justement, en lui d'un autre lui-même, son moi frère de moi, hein, cet homme, ce poète de la main gauche. Et en 1917, la nuit de ses 30 ans, il écrit le poème, le texte de sa renaissance en poète de la main gauche, qui est La fin du monde, filmé par l'ange de Salam.
Rapprochement peut-être facile auquel vous êtes habitué, Claude Leroy, le concerto pour la main gauche de Ravel qui s'est engagé volontairement pendant la guerre de 14. Je suis l'autre, dites-vous. Ce concerto pour la main gauche, il l'a composé pour un pianiste amputé lui aussi, en 1915, de la main droite, mais un pianiste autrichien, Paul Wittgenstein, le frère du philosophe. Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
C'était l'interprétation de Samson François. Blaise Cendrars en partance perpétuelle. Claude Leroy, vous avez publié les 15 volumes des œuvres complètes chez De Noël. On parlait des scansions importantes 1912, 1915, l'amputation. 1924, le voilà en partance pour le roman. Enfin, arrivé au Brésil en partance pour le roman.
En 1924, c'est une date évidemment importante pour lui, mais aussi pour la poésie française d'une manière plus générale. 1924, c'est la constitution du mouvement surréaliste. Le manifeste de Breton paraîtra à la fin de l'année. Cendrars part au début de l'année. Et on peut, en forçant à peine le trait, dire que ce départ pour le Brésil, en 1924, qui va faire de lui un romancier, en effet au retour, et sans qu'il l'ait prévu, ce départ-là se fait contre les milieux littéraires parisiens, et tout particulièrement contre justement la venue au pouvoir réel et symbolique du mouvement surréaliste. Il y a là une rupture avec, disons, l'avant-garde parisienne.
Dites-moi, on a parlé du bateau, on a parlé du transsibérien, on n'a pas parlé de l'avion.
Aujourd'hui, mon cher Michel Manal, je suis particulièrement de bonne humeur. Je suis de bonne humeur, j'ai été attendre un ami à l'aérogare. Cet ami n'est pas arrivé, je suis resté porté 2 heures, et durant 2 heures, j'ai vu partir et arriver des avions et des gens qui arrivaient de tous les coins du monde et qui partaient dans toutes les directions. Et mon chien roupillait, mon petit wagon dit roupillait. Alors j'ai réveillé d'un énorme coup de pied. Je dis, écoute, mon vieux, pour une fois que tu as l'occasion de faire fonctionner ton flair, vas-y donc.
Mais alors l'odeur des aérogares, qu'est-ce que c'est pour vous?
J'ai pas pu bien m'en rendre compte hier parce que ça sentait un peu trop l'essence, tout simplement l'essence.
Et ben ça, vous avez
des cars, mais pour un chien qui pouvait flairer les gens qui descendaient, qui débarquaient ou qui repartaient. Assurément que l'avion de Brazzaville, les passagers de Brazzaville devaient rapporter sur eux et pour mon chien. Il y avait notamment une négresse avec des jambes pas plus grosses que des allumettes, qui m'a rappelé des tas de choses, qui ne s'emportaient pas plus mal pour cela.
Mais qu'est-ce que ça vous a rappelé?
Ça m'a rappelé des tas de choses vu là-bas, des types d'indigènes, des types de jambes de femmes.
Oui, je crois que le fait d'avoir été aujourd'hui à l'aérogare, ça a éveillé encore quelque chose en vous. Un vieil appétit que vous ne pourrez jamais guérir et qui est l'appétit du voyage. J'ai l'impression que vous mourrez d'envie de repartir.
Non, je ne meurs pas d'envie, mais sûrement je repartirai. Ça, il n'y a pas de doute.
Enfin, vous ne faites qu'une halte à
Paris.
Je
pensais partir dans quelques années seulement, mais...
Dans l'océan Indien, vous avez dit.
Oui, c'est ça. À partir de 70 ans, je me serais inscrit chez Cook. J'aurais retenu d'avance un bel éléphant, bien paisible et bien sage, parce qu'à 70, je serais un vieux monsieur. En fait, je m'imaginais comme ça, dans une petite voiture et poussé par une... belle infirmière anglaise m'a tenté au sein dur, qui m'aurait surveillé de très près, donc il ne m'arrive à rien.
Mais dites-moi, Claude Leroy, ce chien renifleur, il s'appelle
Wagon-lit.
Wagon-lit.
Wagon-lit, oui.
Le train, toujours, non?
Alors, dans une interview, Cendrars, qui aimait bien, encore une fois, prendre à rebrousse-poil ses interlocuteurs, disait, non, Wagon-lit, non, c'est pas la compagnie des Wagon-lit, c'est, il faut l'entendre à la façon chinoise, hein, c'est Wagon, fils de Wagon.
Mais, à entendre tout ce que nous avons passé comme son, tout ce que vous avez dit, on va peut-être avoir l'impression que c'est une sorte de magasin pittoresque, l'œuvre de Cendrars que vous décrivez au contraire comme le résultat d'une volonté de composition très élaborée.
Oui, ça c'est le grand malentendu. Pendant longtemps, effectivement, le personnage de Cendrars, qu'il a lui-même soigneusement composé, affiché, ce personnage a masqué jusqu'à un certain point la lecture de ses textes. On les voyait en fonction du personnage, comme des attributs variés. On s'étonnait pas que ce soit au fond assez disparate, cette œuvre, hein, entre l'époque à New York, et puis les reportages pour Paris Soir, et puis Moravagine, et puis Bourlinguer, et Emmène-moi au bout du monde. Enfin bref, c'est une œuvre dont la continuité, dont la cohérence ne s'impose pas immédiatement. Je crois que cette exhibition du personnage qui a fait, je dirais, un certain tort à son œuvre, Il en avait besoin, justement, pour écrire. Pour écrire derrière son écran, justement. Il avait besoin de ce masque-là pour écrire. Alors, il faut naturellement pas, en renversant les opinions reçues, dire qu'il... que c'était, je sais pas, un oulipiste, n'est-ce pas ? Certainement pas. Mais c'est quelqu'un, effectivement, dont la volonté d'œuvre se masquait derrière l'exhibition, justement, de ce personnage si bien servi par la radio, si bien servi par la voix, effectivement, étonnante qu'est la sienne.
Mais alors, il tenait dans un filet très serré des éclats de la vie réelle, des fragments disloqués par le temps qu'il recomposait. Ici, on est dans une émission d'histoire, il faudrait quand même prendre au sérieux cette notion qu'il a inventée, qui mérite considération pour nous autres qui faisons commerce du passé, la prochronie. Expliquez ça, pour élever encore un peu plus haut l'interprétation.
Ben, la prochronie, c'est un mot étrange, étrangement familier. On se dit, bon, prochronie, j'ai déjà lu ça quelque part. Naturellement, synchronie, diachronie, prochronie, pourquoi pas. On regarde son dictionnaire pour s'en assurer, on ne le découvre pas. On se dit, c'est peut-être une figure de rhétorique un peu oubliée. On ne la découvre pas. On découvre prochronisme, par contre. Prochronisme, c'est un anachronisme, effectivement, qui consiste à placer un événement avant sa date effective. Bon. Pour aller vite, ce mot de prochronique, il utilise parfois et dont il est l'inventeur. Je crois qu'on peut l'associer chez le lecteur de Proust, méconnu qu'il était, mais qui était un lecteur passionné, peut l'associer à une recherche du temps perdu. C'est une façon de revenir, effectivement, à des moments clés pour se refonder.
Merci à vous d'avoir participé à cette marche de l'histoire qui utilisait beaucoup de chemins de digression et qui faisait beaucoup de pas de côté, à la façon de Blaise Sandrard. Je signale à Montrichet en Suisse une exposition Blaise Sandrard et Sonia Delaunay. C'était une de ses grandes amies à la Fondation Jan Michalski. Votre volume Partir chez Quarto, superbe. Et puis les deux des quatre volumes déjà existants, les deux récents, dans la bibliothèque de la Pléiade. L'émission était préparée par Elinka Negulesco avec Franck Olivard à la réalisation Audrey Ripouille. La technique, c'était Pierre-Yves de Rolin.